Vous êtes vraiment bien sur Radio Campus, en modulation de fréquence ou sur le DAB+, et confortablement sur la toile à campuslille.com. L'atelier du désir novateur vous présente Le Chant de l'Histoire, un podcast qui rafraîchit la mémoire de la chanson. Aujourd'hui, les chansons de Ploc, une suite de chansons et contes d'un grand-père pour tous les enfants, petits ou grands.
Veux-tu monter dans mon bateau? Ton bateau n'est pas beau. Veux-tu monter dans mon bateau? L'est pas bien beau, mais il y va sur l'eau. Je l'y mettrai des voiles, je l'y mettrai des voiles, des blanches et puis des bleues, des blanches et puis des bleues. Veux-tu monter dans mon bateau? Ton bateau n'est pas beau. Veux-tu monter dans mon bateau? N'est pas bien beau, mais il va sur l'eau. Je l'y mettrai des rames, je l'y mettrai des rames, pour qu'il avance mieux, pour qu'il avance mieux. Veux-tu monter dans mon bateau? Ton bateau n'est pas beau. Veux-tu monter dans mon bateau? N'est pas bien beau, mais il va sur l'eau. Je l'y mettrai des cages, je l'y mettrai des cages, avec des oiseaux bleus, avec des oiseaux bleus. Veux-tu monter dans mon bateau? Ton bateau, ben, il est pas beau. Veux-tu monter dans mon bateau? Il est pas bien beau, mais il y va sur l'eau. Je l'y mettrai des fleurs, je l'y mettrai des fleurs, pour que ça sente bon, pour que ça sente bon. Veux-tu monter dans mon bateau? Ton bateau n'est pas beau. Veux-tu monter dans mon bateau? N'est pas bien beau, mais il y va sur l'eau. Je l'y mettrai des lampes, je l'y mettrai des lampes, d'en bas jusqu'au plafond, d'en bas jusqu'au plafond. Veux-tu monter dans mon bateau? Ton bateau n'est pas beau. Veux-tu monter dans mon bateau? N'est pas bien beau, mais il va sur l'eau. Je l'y mettrai le diable, je l'y mettrai le diable, pour qu'il te jette à l'eau, pour qu'il te jette à l'eau. Je veux monter dans ton bateau, il est très beau. Tu viendras pas dans mon bateau, il est bien trop beau pour t'emmener.
C'est monsieur de la misaine, il dit qu'il est capitaine, mais moi j'ai vu son bateau naviguer dans le ruisseau. Barati, baratin, au fond, hein, au fond dans son jardin. C'est monsieur de Carapette, il dit qu'il est acrobate, en allant se promener, il est tombé sur son nez. Barati, baratin, filet, filet dans son jardin. C'est monsieur de la palue qui compte mille aventures, n'est jamais sorti d'ici, c'est sa femme qui l'a dit. Barati, baratin, trésor, un trésor dans son jardin. C'est c'est monsieur de la guimauve, se disait dompteur de faux, est venu chercher papa pour se défendre d'un rat. Barati, baratin, gros chat, un gros chat dans son jardin. La carrière qui se dit tailleur de pierre, qui s'est écorché les doigts, c'est un calendrier noir. Barati, baratin, caillou, un caillou dans son jardin.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Mais si, mais si,
non, 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 non.
Mais si, mais si,
non, 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 non.
Mais si, mais si,
non, 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 non.
Parlant français, parlant latin et javanais.
Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais.
Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Et pourquoi pas? Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards.
Une fourmi traînant un char plein de pingouins. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Mais si, mais si,
non, 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 non.
Mais si, mais si,
non, 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 non.
Mais si, mais si,
non, 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 non.
Mais si, mais si,
non.
Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais.
Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais.
Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Et pourquoi pas?
Ah, y a du monde ici. Y a du monde en Titi. Un petit poisson rouge, je vois ta clarinette. Faut sentir la musique, sentir la musique. La sens-tu la musique? Alors joue, petit poisson, gonfle tes joues, petit poisson. Et souffle, et souffle, et joue! Avec un autre. Allez, un petit poisson bleu, je vois de la clarinette. Faut sentir la musique, sentir la musique. La sens-tu la musique? Alors joue, petit poisson, gonfle tes joues, petit poisson. Et souffle, et souffle, et joue!
Ah,
c'était un petit peu mieux. Mais on va en essayer un autre. Un petit poisson vert. OK, on y va. Un petit poisson. Un petit poisson vert, jouer de la clarinette. Faut sentir la musique. Sentir la musique. La sentir la musique. Ah, tout ce que je cherche, c'est un méchant mal de tête. Oh, oh. C'est assez, petit poisson. Ça suffit, petit poisson. Oulie, petit poisson. Dormez!
J'adore se tenir bien serré. Qu'on vole sous les alligators, la 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 la. Qu'on vole sous les alligators, la 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 la. Au douzième coup de minuit, il danse et se balance. Et sous la lune qui luit, c'est un tango qu'il commence, ondulant à merveille, se glissant des secrets à l'oreille. Qu'on valse les alligators, la 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 la. Qu'on valse les alligators, la 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 la. Il faut les voir aller dans leurs chaussures de crocodile, froufrou et canotier. Qu'ils sont beaux ces reptiles, sous la vigne où chantent les cigales. C'est la fête, oh oui, c'est le bal. Qu'on vole sous les alligators, la 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 la. Qu'on vole sous les alligators, la 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 la. Des alligators dans des parfums de marécage, on danse jusqu'à l'aurore, on s'enlace dans un beau tapage, et jamais vous ne verrez de pauvres, pauvres danseurs esselés. Qu'on vole sous les alligators, la 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 la. Qu'on vole sous les alligators, murmurer sous la lune au bal des alligators. Mais oui, ils murmurent les alligators. Vous ne saviez pas?
Le bal des oiseaux, merle, fauvette, guépard. chêne chante le cœur. La valse entraîne tous les danseurs. C'est le bal des oiseaux, merle, fauvette, guépasson, cardinal, gris moineau et l'alouette, tous en rond. Pour la gavotte, monsieur sera, dit Alinotte, donne-moi ta main. Puis vient ensuite le menuet, fauvette invite le roi telet. C'est le bal des oiseaux, merle, fauvette, guépasson, cardinal, gris moineau et l'alouette tous en rond. Bergeronnette en petit saut fait des courbettes au lorio. Dame Corneille en noir jupon dans sa merveille le rigodon. C'est la nuit qui s'étend, chacun s'envole vers son nid. Ce doux bruit qu'on entend, c'est un frivole
fantamusistique, cet époustouflant sifflant. Fabule harmonique, c'est follement amusant. D'avoir la tête dans les nuages, d'avoir la tête dans les nuages. On y raconte des histoires, on peut dire ce que l'on veut. Et ça remplit nos mémoires de souvenirs fabuleux. On peut changer de prénom, on peut être qui l'on veut. C'est princesse ou papillon, ou même un sorcier grincheux. C'est fantamusistique, c'est époustouflant. Fabule harmonique, c'est follement amusant. D'avoir la tête dans les nuages, d'avoir la tête dans les nuages. On peut laisser libre cours à son imagination, ou bien faire trois petits tours avec des bulles de savon. On y jongle avec des quilles, on vole avec les oiseaux, et on marche sur un fil en chantant sol, fa, mi, ré, do. C'est fantamusistique, c'est époustouflant. Fabule harmonique, c'est follement amusant. D'avoir la tête dans les nuages, d'avoir la tête dans les nuages. On y chante des chansons, on invente des refrains. On joue du piano, du violon et on frappe dans ses mains. C'est fantamusistique, c'est époustouflant. Fabule harmonique, c'est follement amusant. D'avoir la tête dans les nuages, d'avoir la tête dans les nuages.
Ballant, ballant, balançoire, belle, belle, belle histoire. Tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux.
Et je danse et je m'élance.
Et je roule et je m'enroule. Oh, oh, oh. Ballon, ballon, balançoire. Histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux.
Ballon, ballon, balançoire, belle, belle, belle histoire. Tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux.
Et je glisse tour à petit seuil.
Et je tombe comme une trombe.
Je m'élance et ça recommence. Oh, balançoire, belle, belle histoire. Tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux.
Ballon, ballon, balançoire, belle histoire. Tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux.
Toute douce des ailes me pousse.
Ce jour-là, c'était fête dans la basse-cour. Il y avait 21 jours que Cotte-Cotte, la poule, restait accroupie sur ses œufs pour les couver. Le moment était venu où les petits poussins allaient briser leurs coquilles pour entrer dans la vie. Pour la circonstance, tous les animaux de la basse-cour s'étaient réunis autour du lit de paille sur lequel se tenait la poule. Il y avait le faisan, le dindon, les autres poules, bien sûr. Et les canards qui s'étaient approchés à la queue-leu-leu. Au milieu de tout ce monde, le coq paradait. Et ce fut lui qui, d'un chant triomphant, annonça la nouvelle lorsque le premier poussin brisa sa coquille. L'un après l'autre, ils apparurent et bientôt il ne resta plus qu'un œuf. Un œuf dont ces messieurs et ces dames de la basse-cour attendirent en vain un long moment qu'il s'ouvre comme les autres.
C'est peut-être parce que la coquille est trop dure. Je vais l'aider à la briser.
Et tout en parlant, le coq donna sur l'œuf un coup de bec. Hé
là, laissez-moi tranquille.
Qu'est-ce que ça signifie?
Une voix s'était faite entendre à l'intérieur de l'œuf. Le coq, intrigué, se pencha sur la coquille.
Eh bien, il faut sortir. Frappe un bon coup pour briser la coquille.
Non, je ne veux pas sortir.
Comment tu ne veux pas sortir?
Je suis très bien où je suis, et j'y reste.
Ah ben ça par exemple.
De mémoire de coq, de dindon, de pintade ou de poule, on n'avait jamais vu une chose pareille. Et le coq, furieux de voir arriver dans la basse-cour un poussin contestataire, donna sur la coquille un tel coup de bec que le sommet de l'œuf se détacha, formant un chapeau pour le poussin qui daigna enfin sortir la tête.
Qu'est-ce que c'est que cette façon de se conduire avec les gens? On ne peut pas me laisser tranquille.
Mais enfin, mon poussin, tu es un poussin. Et on n'a jamais vu un poussin rester dans sa coquille.
Tant pis, moi j'y reste.
Et sans prêter davantage attention à sa mère, le poussin baissa la tête, faisant se refermer sur lui sa coquille. Durant tout le reste de la journée, ce fut en vain que poules, faisans, dindes et dindons tentèrent de faire entendre au poussin la voix de la raison. Et lorsque le lendemain, le coq chanta, l'animation de la basse-cour le laissa indifférent.
Enfin, tu ne vas tout de même pas passer ta vie dans cette coquille.
Pourquoi pas?
Il y a des tas de choses intéressantes à voir autour de nous.
Quoi, par exemple?
Je ne sais pas, moi. Tiens, ils sont en train de décharger le foin dans la cour de la ferme. C'est très intéressant de voir décharger le foin. En principe, il est fait pour nourrir les vaches et les chevaux. mais on y trouve toujours quelques graines à picorer.
Tandis que sa mère parlait, le poussin curieux avait un peu soulevé la tête hors de sa coquille.
Lorsqu'il entendit qu'il était question de graines et de picorer, sans très bien savoir ce que cela signifiait, il quitta le poulailler pour se diriger vers la cour de la ferme, mais sans pour autant sortir de sa coquille. Et en bondissant pour avancer, comme le font les enfants qui s'amusent à progresser les pieds pris dans un sac. La coquille, en rebondissant sur le sol, faisait le bruit d'une balle de ping-pong.
Cloc, cloc, cloc.
Et ce bruit était tellement drôle que les habitants de la basse-cour décidèrent immédiatement d'appeler le petit poussin Ploc. Lorsqu'il arriva dans la cour de la ferme, Ploc fut un peu ébloui par l'éclat du soleil. Et ce n'est qu'après un temps qu'il reprit ses bonds pour se diriger vers la charrette de foin autour de laquelle on s'affairait.
Gare-toi, Ploc ! Gare-toi !
Le tracteur de la ferme venait droit sur lui. Et Ploc ne dut qu'un bond prodigieux de ne pas finir sa vie écrasé par les énormes roues.
Écraseur ! Conducteur du dimanche ! J'aurais pu mourir.
Aussi, ça n'a pas de sens de vouloir rester enfermé dans une coquille. Si tu étais sur tes pattes, comme tous les autres poussins, tu aurais pu te sauver en voyant le danger arriver.
Je suis très bien dans ma coquille. Et de voir que le monde est rempli de machines infernales, ça me donne encore plus envie d'y rester.
Le tracteur n'est pas une machine infernale. Il fait beaucoup de bruit, je te l'accorde. Mais il sert à labourer la terre, à y tracer les sillons, à y semer le grain. Et c'est lui encore qui permet de passer la herse lorsque le grain est semé pour égaliser le sol.
Au fond, Ploc était enchanté d'apprendre toutes ces choses. Mais il ne voulait pas montrer que cela l'intéressait. Et avant même que la maman ait terminé, il s'était dirigé à petits bonds vers l'étable où se trouvaient les vaches.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que j'aille voir.
Et Ploc, sans s'interroger davantage, prit la direction de l'étable où, à peine entré, il se trouva nez à nez avec une énorme bête à la tête encadrée de cornes.
Comme elle est grosse ! Mais ça ne vous fait pas mal ce qu'on vous fait ?
C'était l'heure de la traite et la petite fille de la ferme tirait sur l'épi de la vache pour en faire sortir le lait qui coulait dans un seau.
Pas du tout. La traite est une chose naturelle. D'ailleurs, je n'ai pas à me plaindre. C'est la fille de mon maître elle-même qui recueille mon lait. Alors que les autres vaches sont soumises à la traite électrique. Ça vous enlève toute dignité.
Mais ce lait, il sert à quoi ?
Nos maîtres l'expédient en bidon vers la ville, où il est transformé en beurre, en fromage, en yaourt et même en glace. Qui sont des friandises excellentes, mais un peu froides.
Alors, si je comprends bien, une vache, c'est quelqu'un de très important ?
De très important, jeune homme.
Et le poussin, rempli de respect, s'inclina par trois fois avant de sautiller à reculons vers la porte de l'étable. Lorsque Ploc se retrouva dans la cour de la ferme, ce fut pour apercevoir sa maman et ses frères qui se dirigeaient en groupe vers la porte cochère ouvrant sur les jardins.
« Sors de ta coquille et viens avec nous. Maman nous a promis de nous conduire dans un endroit où il y a de très bonnes choses à manger. »«
Je veux bien venir avec vous, mais je reste dans ma coquille. »
Et Ploc, en sautillant, suivit la bande des poussins qui allaient en piaillant. Ce fut dans un terrain situé à proximité de grands arbres que la poule arrêta ses poussins. Elle gratta un peu le sol. De son bec, il saisit un ver, le donna à celui de ses enfants qui se trouvait le plus proche d'elle et expliqua aux autres comment il fallait s'y prendre pour trouver dans la terre un excellent repas. Ploc, pour sa part, pensait à autre chose. Il était prodigieusement intéressé par le jeu d'un petit garçon et d'une petite fille qui détachaient des boules d'un arbre et les mettaient dans un panier. La maman poule lui expliqua que ce n'était pas un jeu, que les enfants cueillaient des fruits.
Des fruits ? Qu'est-ce que c'est des fruits ?
De la nourriture qui pousse sur les arbres. D'abord, les arbres se couvrent de fleurs, puis les fleurs se transforment et deviennent des fruits.
Et c'est pour les manger que les enfants les ramassent ?
Oui, ou bien pour en faire des tas de choses. Les pommes, par exemple, on peut les manger. Mais on peut aussi en faire du cidre, de la compote.
On peut faire du cidre avec tous les fruits ?
Non.
Et patiemment, la poule expliqua à son fils quels étaient les fruits que l'on cueillait dans les environs de la ferme et ce qu'on en faisait.
Quand le cidre est tiré, il n'y a plus de pommes. Quand le cidre est tiré, il n'y a plus de pommes. Quand la tarte est mangée, oh oh, il n'y a plus d'abricots. Et de compote en confiture, revient le temps de la froidure. La prune alors, l'œil réjoui, vous offre un doigt d'eau de vie. Quand le cidre est tiré, il n'y a plus de pommes. Quand le cidre est tiré, il n'y a plus de pommes. Quand la tarte est mangée, oh oh, il n'y a plus d'abricots.
Ploc avait encore la tête pleine de prunes, de cerises, d'abricots et de poires lorsque le soir arriva. Il regagna le poulailler avec les autres poussins et s'étant replié à l'intérieur de sa coquille, s'endormit.
Cécile et Céline, ce sont deux cousines qui s'entendent bien, qui ont le même œil coquin. Cécile et Céline, on ça se devine, des parents qui ont grandi dans la même maison. Cécile et ses chouettes, la fille d'Arlette, la sœur de Robert qui de Céline est le père. Ça serait facile si avant Cécile, il n'y avait Thierry qui est le cousin de Valérie. Valérie, Céline, Thierry, sa frangine, ont aussi Agnès qui de leurs parents est la nièce. Elle est leur cousine, fille de Jocelyne, qui est la dernière, la sœur d'Arlette et de Robert. Donc dans la famille, il y a quatre filles, mais il y a aussi le petit cousin de Thierry. Agnès en est fière, c'est son petit frère, il s'appelle Richard et il est né un peu plus tard. Richard et Céline ont d'autres cousines et d'autres cousins et puis des cousins de cousins. Mais Marie Tournelle s'arrête à Angèle qui est leur grand-mère et qui fait tout leur pull-over. Si ça te fait rire, essaie de me dire comment tes cousins ont pu te ressembler si bien. Et après tu chantes de qui est la tante, la sœur de ta mère et la fille de ton grand-père. Muriel et Marine, ce sont deux cousines qui ont trois cousins, Rodolphe, Gilles et Sébastien. À toi de le dire, à toi de l'écrire, tu le feras bien car moi je n'y comprends plus rien.
Lorsque le coq chanta, le lendemain matin, il y avait déjà longtemps que Ploc était réveillé. Toute la nuit, il avait rêvé aux choses qu'il avait apprises. Sa curiosité était devenue plus grande. Et dès les premières lueurs de l'aube, il avait quitté le poulailler en sautillant pour partir à la découverte des environs de la ferme. C'était merveilleux de voir le soleil se lever sur les collines et sur les prés. Un monsieur qui fumait la pipe montrait du doigt les champs aux enfants de la ferme et semblait leur donner des indications. Ploc, curieux, s'approcha d'eux en quelques bonds. Et c'est ainsi qu'il apprit que l'orge servait à faire de la bière, que l'avoine permettait de nourrir le bétail, que le seigle et le blé donnaient du pain noir ou du pain blanc lorsqu'on avait travaillé la farine tirée de leurs grains. Il aurait encore appris beaucoup d'autres choses sur le maïs et la luzerne si la tentation d'aller picorer quelques grains de blé ne l'avait poussé à s'enfoncer au milieu des épis pour tomber sur un épouvantail.
À moi ! Au secours ! À moi !
En quelques bonds précipités, le poussin se retrouva auprès de sa mère, qui, inquiète de l'avoir vu s'éloigner, s'était juchée sur un monticule pour le surveiller.
« C'est le monsieur là-bas qui m'a fait peur !»«
Le monsieur ? Mais mon fils, c'est un épouvantail !»«
Mais qu'est-ce que c'est un épouvantail ?»«
Un bâton habillé de vêtements d'homme que l'on place au milieu des champs pour faire peur aux oiseaux et les empêcher de venir manger le grain. »
Cet épouvantail n'avait d'ailleurs épouvanté que Ploc. Les oiseaux le connaissaient de longue date et ils avaient pris l'habitude de s'en servir de perchoir. Lorsque le petit poussin s'en rendit compte, il reprit confiance et retourna au milieu des épis pour se gorger de grains de blé. Il y avait un instant que Ploc cherchait sur le sol les grains tombés des épimures, lorsqu'il vit venir vers lui une monstrueuse mécanique. Cela ressemblait à un tracteur, mais il y avait sur le côté des lames de bois qui tournaient et couchaient le blé avant de le faire disparaître dans la machine. L'engin, en ouvrant de larges sillons, venait droit sur le petit poussin, qui n'eut que le temps de déguerpir en quelques bonds rapides et de s'arrêter auprès d'un oiseau qui ricana de son air effrayé.
Oh, tu l'as échappé belle!
Qu'est-ce que c'est que cet animal?
C'est pas un animal, c'est une moissonneuse batteuse.
Et ça mange du blé?
D'où tu sors? Pour ne pas savoir qu'une moissonneuse batteuse est une machine agricole qui coupe le blé et qui en même temps le bat pour en détacher l'épi de la tige, le nettoie et retient les impuretés pour ne laisser sortir que le grain.
C'était très impressionnant. Tellement impressionnant que Ploc jugea plus prudent de prendre le large et de se diriger vers le pâturage où paissaient les moutons. Tout était tranquille ici. Dans un coin du jardin potager, le fermier semait des graines qui deviendraient des légumes. Dans le pré, les moutons allaient d'une touffe d'herbe à l'autre. Leur repas les absorbait tellement qu'ils ne prêtèrent aucune attention à Ploc dans sa coquille. Et le petit poussin n'aurait jamais su que les moutons sont des herbivores dont on mange la viande et que l'on tond pour faire de la laine, si la vache dont il avait fait la connaissance dans l'étable et qui paissait elle aussi, ne lui avait raconté tout cela la bouche pleine.
Vous devriez aller du côté du petit bois pour faire la connaissance du cheval.
Qui c'est le cheval?
Tenez, c'est celui qui est né là-bas. Il prétend qu'il est la plus noble conquête de l'homme. Bien que pour ma part, je le trouve beaucoup moins utile que nous, les vaches.
Quelle impertinence d'avancer une chose pareille!
Le cheval fut très vexé lorsque Ploc lui eut répété les propos de la vache. Il redressa son encolure, secoua dignement sa crinière et regarda le poussin de toute sa hauteur.
Cette ruminante bornée oublie les services qu'ont rendus mes ancêtres. Mais ce sont eux qui tiraient les voitures lorsque les automobiles n'existaient pas. Et sans nous, il aurait été impossible à l'homme de voyager autrement qu'à pied. Il ne faudrait pas oublier non plus que jusqu'à l'apparition du tracteur, c'est nous qui tirions la charrue pour labourer la terre.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites?
Oh, cela dépend. Certains de mes parents vont courir le dimanche pour permettre à nos amis les hommes de gagner un peu d'argent en jouant au tiercé. D'autres les prennent sur leur dos afin de les conduire en promenade.
Mais alors, les hommes doivent avoir beaucoup de reconnaissance pour vous?
Pensez-vous. Certains prétendent que notre viande est la plus saine. Et ils nous mangent, en oubliant que nos ancêtres ont été leurs meilleurs compagnons et que nous avons tous des parents qui sont tombés en héros à leur côté sur les champs de bataille, du temps où la guerre ne se faisait pas avec des chars d'assaut et des avions.
Il y avait un peu de tristesse dans la voix du cheval. Et Ploc en était à se dire que ce fier animal devait quelquefois rêver aux charges héroïques du passé lorsqu'un grognement étrange le fit sursauter. C'était un cochon. Il s'était approché, le groin en avant, et reniflait Ploc, qui s'était mis à trembler de frayeur dans le fond de sa coquille.
Comme c'est étrange. Un œuf qui tremble. Tu crois que je peux le manger?
Le lapin auquel le porc avait posé sa question remua ses grandes oreilles avant de répondre.
« Je sais que tu as l'habitude de manger un peu n'importe quoi et de tout digérer. Un œuf qui tremble, ça risquerait peut-être de te rendre malade. »«
Tu as raison. Il vaut mieux être prudent. »
Et le porc d'un coup de groin envoya promener Ploc, qui, enfermé dans sa coquille, se mit à rouler le long de la pente descendant vers la rivière. Personne pour voler au secours de Ploc. Et l'œuf roula de plus en plus vite, jusqu'au moment où, arrivé au bord du pré, il plongea dans le vide. Lorsqu'il osa ouvrir les yeux et soulever un peu le dessus de sa coquille, Ploc vit une multitude d'ailes autour de lui.
Des anges! Je dois être au paradis.
Les anges n'étaient que des canards. Et Ploc, au milieu d'eux, flottait dans sa coquille.
Aidez-moi! Aidez-moi à regagner la rive!
Tu n'as qu'à te débrouiller. Quand on se prend pour un poussin navigateur, on se débrouille.
Et les canards, au lieu de venir en aide au malheureux poussin, se mirent à patauger autour de lui, à faire des vagues avec leurs pattes. Ce qui eut pour conséquence de déporter la coquille de Ploc au milieu de la rivière, où le courant la saisit et l'emporta.
À moi! À l'aide!
Le courant entraînait Ploc de plus en plus vite. L'escargot, le voyant passer, cria pour le mettre en garde.
Fais attention! Il y a une chute d'eau droit devant toi. Tu vas être noyé.
Essaie de courir jusqu'au pont et de m'arrêter au passage.
Hélas, je ne peux pas courir. Je ne peux que ramper. Et avant que j'y arrive, tu seras déjà passé.
Il n'y avait plus d'espoir pour le petit poussin. La chute d'eau se rapprochait à toute vitesse. Et il y aurait certainement été précipité si la maman poule n'était accourue au dernier moment sur le bord de la rivière, tenant un roseau dans son bec.
Accroche-toi au roseau! Vite!
Ploc le saisit, et dans l'effort qu'il fit pour arrêter sa course, il sortit de sa coquille qui s'écrasa au bas de la chute d'eau lorsque le petit poussin atteignit le rivage. À partir de ce jour-là, Ploc, le petit poussin qui ne voulait pas sortir de sa coquille, devint un poussin comme tous les autres. Seulement, son aventure lui avait permis d'apprendre beaucoup de choses. Il était devenu très curieux, continua à s'instruire, et lorsqu'avec l'âge il devint un coq magnifique, ce fut lui qui enseigna au poussin nouveau-né ce qu'était la ferme où il vivait et à quoi servait ce qu'il voyait autour d'eux.
Jonathan étant âgé de 18 ans capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan au matin pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps, cela peut durer pendant très longtemps, si l'on ne fait pas d'omelette avant, si l'on ne fait pas d'omelette avant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas, si l'on ne fait pas, si l'on ne fait pas d'omelette avant.
Joint concert. D'autres grenouilles, des milliers, je crois, au pied des quenouilles, élèvent la voix. Et le wawaron grogne et leur répond. Et le wawaron grogne et leur répond. Dans les quenouilles, au bord de l'étang, madame grenouille, pour passer le temps, se met à chanter par un soir d'été, se met à chanter par un soir d'été.
Éphémère de Chine est une princesse fragile, jolie comme une libellule gracile. Fille de Cébidoptère, légère comme l'air, la princesse éphémère pour son malheur ne dure que quelques heures. Éphémère de Chine est une princesse fragile. Elle ne vit qu'une seule journée, somptueuse journée. Le matin, elle s'éveille, de son cocon sort du sommeil. Éphémère grandit très vite, vêtue de robes magnifiques.
De robes magnifiques. Elle va respirer le parfum des fleurs. On peut la voir dans les jardins, entourée de princes coléoptères qui lui font la cour dans les airs.
Qui lui font la cour dans les airs.
Elle va respirer le parfum des fleurs. On peut la voir dans les jardins, entourée de princes coléoptères. Qui lui font font la cour dans les airs.
Qui lui font la cour dans les airs. Et puis le soir arrive et le règne des fées s'achève. La princesse de Chine bat de l'air. Disparaît dans la nuit, illuminée de lucioles amies. Éphémère de Chine pour son malheur, ne vit que quelques heures, que quelques heures. Éphémère de Chine pour son malheur, ne vit que quelques heures, que quelques heures. Mbadé, Maya Dondé.
Sa voile se tend
rien. Mais il n'est pas imprudent. Mon bateau est très savant.
Mon bateau s'en va sur l'eau. Mon bateau à voile. Mon bateau, c'est le plus beau. Il s'appelle l'Étoile.
Et je le suivrai, c'est vrai. Et je le suivrai. S'il voulait bien me montrer les pays dont j'ai rêvé.
Mon bateau s'en va sur l'eau. Mon bateau à voile. Mon bateau, c'est le plus beau. Il s'appelle l'Étoile.
Nous partirons tous.